franceinter.fr.
Et voici la revue de presse avec Hélène Jouan. Bonjour Hélène.
Bonjour.
On commence par le premier rendez-vous international d'Emmanuel Macron.
Sommet de l'OTAN hier à Bruxelles, déjeuner avec le président américain Macron. Premier pas dans le monde, titre ce matin la Dépêche du Midi. Alors, que retenir de ces importants rendez-vous diplomatiques? Eh bien, comme vous l'avez plusieurs fois relevé, Dominique Moisy, la une du Wall Street Journal comme du Figaro ce matin, c'est la photo de la fameuse poignée de main des présidents américains et français. Comme pour nous rappeler que la politique n'est en effet qu'une affaire de virilité, de bras de fer avec gros muscles. Le correspondant du très sérieux New York Times décrit ainsi l'événement. Le président américain de 70 ans et son homologue français de 39 ans se sont donné la main, entamant un salut viril qui s'est achevé en poignée de la mort, bon enfant. Mâchoires serrées, visage alternant entre sourire et grimace, ils se sont serrés la main jusqu'à ce que les jointures de Monsieur Trump pâlissent. Il a essayé de retirer sa main, mais Monsieur Macron a grippé sa main encore plus fort et a continué à la serrer. Finalement, la seconde fois, Monsieur Trump s'est retiré et Monsieur Macron l'a laissé partir. Analyse politique, cette fois dans le Washington Post, de cette diplomatie de la poignée de main. Le président français a signalé par sa ferme poigne à son homologue américain qu'il n'était pas le seul mâle alpha dans la pièce.
Et sur le fond, Hélène Jouan, des sujets abordés?
Sur le fond de cette discussion franche et amicale, comme l'a qualifié Emmanuel Macron, on retiendra surtout qu'il a surtout encouragé Donald Trump à ne prendre aucune décision précipitée sur les accords de Paris concernant le climat. Alors que cette décision est attendue d'ici quelques jours maintenant, Libération nous rappelle ce matin que sur le sujet, les Américains soufflent le chaud et les froids. À savoir qu'ils hésitent entre une sortie totale de l'accord, poussée en ce sens par le très droitier conseiller du président Steve Bannon, et une révision à la baisse de leurs ambitions en termes de diminution des gaz à effet de serre, stratégie notamment défendue par la fille du président Ivanka Trump. En tout état de cause, nous explique Isabelle Hahn, choisir entre les deux scénarios, c'est arbitrer entre la peste et le choléra. Mais au moins, relève l'ex-négociateur américain des accords de Paris, dans le dernier cas, les États-Unis resteraient tout de même dans le jeu. L'engagement des grandes métropoles américaines, de certains États américains également en faveur de l'accord, pourrait par ailleurs limiter l'impact d'un désengagement au niveau fédéral. Alors pour finir sur le thème « La politique est une affaire de mâle alpha », on découvre dans Le Parisien aujourd'hui en France que pendant que nos grands hommes parlaient avenir de la planète, un programme spécial « Première Dame » avait été concocté par le protocole, c'est une habitude. Visite au musée Magritte de Bruxelles, escapade dans la plus vieille maroquinerie de luxe du monde, à Bruxelles toujours, et puis dîner sans leur conjoint avec un thème imposé pour les dames, donc l'enfance. Ben voyons de quoi parler d'autres quand on est entre femmes. Sur la photo officielle, un brin archaïque de celles que l'on appelle encore donc les premières dames. Le Huffington Post relève que pour la première fois tout de même posé un premier gentleman, l'époux du premier ministre du Luxembourg. Les deux hommes se sont mariés en 2015.
Dans la presse également ce matin, Hélène, un manifeste et une question.
Une provoque de Libération, une vieille dame nous fait un doigt d'honneur, pleine page. Mais c'est pour lancer un cri d'alarme au sujet de toutes ces personnes âgées qui termineraient leur jour en maison de retraite contre leur gré pour une large partie d'entre elles. Un groupe de médecins, de chercheurs, d'artistes et d'intellectuels signe un manifeste parce que les vieux, écrivent-ils, n'ont plus ni la voix ni la force de décider pour eux-mêmes, se voient trop souvent imposer des conditions de vie contraires à ce qu'ils auraient souhaité. Nous voulons inventer une autre façon de concevoir un accompagnement solidaire et fraternel jusqu'au bout de la très grande vieillesse. Pas de kit tout fait à proposer, mais il nous faut innover, inventer, disent-ils, pour que le grand âge cesse d'être ce monde à l'écart, silencieux, opaque, condamné à l'invisibilité. Et puis une question également dans la presse, la justice française va-t-elle faire trembler le géant américain Apple? C'est Le Parisien qui dévoile la nouvelle piste des juges en charge de l'enquête sur le crash du vol MS-804 d'Egypte Air en mai 2016. Il s'intéresse, ces juges, à la piste d'un incendie dans le cockpit des pilotes. Un incendie qui pourrait avoir été provoqué par l'iPhone ou l'iPad du copilote. Des experts ont été nommés pour déterminer avec précision si ces appareils, et notamment leurs batteries, ont pu déclencher le sinistre et la catastrophe. Apple ne tremble pas encore et promet pour l'instant de collaborer avec la justice.
C'est vendredi, Hélène Jouan, le moment de savourer les magazines.
Avec un portrait notamment à lire ce matin, celui de Jean-Luc Mélenchon, signé Ariane Chemin dans M, le magazine du Monde. Quelques scènes saisissantes. D'abord, l'une, le soir de la défaite dans la chambre 523 du Saint-Christopher Inn. Une auberge de jeunesse près de la gare du Nord où Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise, attend les résultats. Pas de colère noire ou blanche, feinte ou sincère, pas de vermine, de parasite, de crevard, les mots dont il aime user en public, pas de chaud comme il dit. Tout s'est passé dans sa tête, explique l'un de ses plus anciens amis. Personne ne connaîtra jamais la force de la tempête qui se lève sous son crâne ce soir-là. La collusion des sentiments muets qui produira une réaction chimique bizarroïde, écrit la journaliste. Refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Méluche a pris un masque de samouraï. Sûrement parce qu'il y a cru à cette victoire, Jean-Luc Mélenchon. La preuve, nous raconte Ariane Chemin, il avait tout prévu. Le chef de son gouvernement, qui aurait également été garde des Sceaux, et puis au-dessous, ses 13 ministres. Il avait même trouvé son secrétaire général de l'Élysée. Partage des richesses, planification écologique, sortie des traités européens, sortie de l'OTAN pour entrer dans la fameuse alliance bolivarienne, taxes solidaires et protectionnisme, l'utopie était en marche. Ils y croyaient tant qu'une chaîne du président interactive était même à l'étude. Le nouveau chef de l'État, Jean-Luc Mélenchon, s'y serait exprimé une fois par semaine, comme le président, l'ex-président du Venezuela, Hugo Chavez, le faisait le dimanche à 11h dans Allo Presidente. Et puis, autre scène saisissante racontée dans ce portrait, la cérémonie de crémation au Père-Lachaise en 2015 d'un des très proches de Mélenchon, François Delapierre, mort à 44 ans d'une tumeur au cerveau. Delape, presque un fils, qui avait théorisé pour la présidentielle de 2012 la révolution citoyenne dans les urnes, c'est lui qui aurait dû être candidat en 2017, assure aujourd'hui la légende. Ariane Chemin raconte le rituel de la cérémonie décidée à l'hôpital entre Mélenchon et le futur défunt. On est au cimetière, Mélenchon nomme le cadavre sur lequel, dit-il, est resté figé le sourire narquois. Certains regards se croisent furtivement, un peu étonnés. Ils n'ont encore rien vu, dit la journaliste. Camarade François Delapierre lance la voix. Présent pour toujours et à jamais, répond le premier carré militant, comme les révolutionnaires chiliens quand ils rendent hommage à leurs morts. Et puis une file se met en place autour du cercueil, foulard rouge autour du cou, main droite sur l'épaule droite de celui qu'il précède, entonnant Grandola Villa Morena, le chant portugais de la révolution des œillets. Cette marche en rang est riche de sens, transmission, solidarité. Mais pour certains dans la foule, elle signe aussi au grand jour un groupe sectaire, tous les codes pour maintenir un clan homogène et très radicalisé, suggère un membre de l'assistance d'alors, aujourd'hui encore un peu glacé, à découvrir donc dans M les lignes de faille de Jean-Luc Mélenchon. Et puis à lire également, c'est un long week-end, profitez-en, le récit de la trouble relation entre l'ex-championne de tennis Marion Bartoli et son père, une relation pour le meilleur et pour le pire qui conduira la jeune fille presque aux portes de la mort. Un papier qui est signé Marie-France Etchegoin, c'est dans Vanity Fair et c'est assez glaçant pour tout vous dire.